Bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinématoc. Aujourd'hui, j'accueille Annie et Jérémy, puisque, comme vous le savez sans doute, Utopia Toulouse, c'est fini. Depuis le 15 juin, on ne dit plus « je vais à Utopia »,« je vais à l'Utopia » ou « je vais à l'Utop », mais j'ai vu ce film à l'American Cosmographe, à l'American ou au Cosmo, ou que sais-je encore. Jérémy Bretta et Annie Mao sont les nouveaux directeurs d'Utopia Toulouse, et déjà une petite révolution chez les Utopiens, parce que rebaptiser la salle mythique d'un nom composé d'American, c'était un peu osé. Petit rappel, Utopia, c'est ce réseau de salles indépendantes qui a vu le jour à Avignon en 1976 et s'est déployé un peu partout en France. Fondé par Anne-Marie Faucon et Michel Malacarné, ce réseau est aujourd'hui implanté un peu partout, puisque d'Avignon, on les retrouve aujourd'hui à Bordeaux, Montpellier, Saint-Ouen, Pontoise et désormais seulement Tournefeuille. Bien que tous les cinémas Utopia présentent de grandes similitudes, dans le décor, dans la programmation et dans la mise en page de la Gazette, chacun est juridiquement indépendant. Au niveau contenu, ces salles se sont distinguées par une programmation donnant la part belle à des producteurs et distributeurs indépendants, luttant contre la suprématie de la cinématographie dominante sur nos écrans, la cinématographie américaine. Alors, provocation, clin d'œil, humour. Toujours est-il que dès le second programme de l'American Cosmographe, l'équipe dans son édito rassure « Oui, on peut proposer du cinéma américain et rester dans l'esprit Utopia ». Et non, promis, juré, le nom change, mais rien ne change, ou un peu quand même, et peut-être même un peu beaucoup. Nous allons passer une heure avec Annie et Jérémy, les deux repreneurs de la salle, pour tout comprendre sur ce nouveau lieu. Et au cours de cette émission, Thierry s'invitera pour me raconter son film de chevet. Et pour accueillir à dans ce studio Jérémy et Annie, j'avais le choix entre les satellites, les Américains ou Rammstein, America. Eh bien, Jérémy me fait signe, ça sera plutôt Rammstein. voilà, c'était donc America de Rammstein. Alors bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous vivez désormais dans l'American Cosmograph. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le choix de ce nom? Est-ce qu'il y avait cette idée un peu de provocation? Ouais.
Non, à la base, c'était pas du tout provocateur. C'est très simple. En fait, c'est le premier nom de la salle. En fait, dans les murs où on est actuellement à Toulouse, c'est une salle de cinéma depuis 1907. Et à l'époque, quand ça a ouvert en 1907, ça s'appelait l'American Cosmograph. Voilà. Et puis après, il y a aussi le fait que, donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. On lui redonne son nom, son premier nom.
Vous le saviez déjà que ce qui s'appelait l'American Cosmograph, ou vous l'avez découvert et le nom vous a plu, ou vous y pensiez depuis longtemps?
Alors.
Ça faisait un moment qu'on savait que ça s'était appelé comme ça. Ouais. Après, comme on pensait pas forcément à racheter le cinéma à ce moment-là, on pensait pas forcément l'utiliser, ouais, mais ça a été très vite assez évident. Et voilà, il y a un truc qui nous plaisait dans ce ton-là. Alors, plus le côté cosmographe que américaine, mais le nom nous a plu tout de suite. Ouais. En tout cas, dès qu'on s'est décidé, il y a tout un univers après qui en a découlé, quoi.
Et du coup, vous êtes pas dit bon bah les habitués vont peut-être être un peu surpris qu'on s'appelle American sur le, vous avez pas anticipé cette réaction
si non mais avant même que les choses soient officielles et tout ça, les gens à qui on en parlait nous faisaient cette remarque là déjà, donc on savait bien que ça allait peut-être heurter ou en tout cas interroger.
Ouais.
Et à un moment donné on s'est dit que de toute façon ça ferait parler et que ça permettrait d'expliquer pourquoi et d'expliquer aussi ce qu'on fait, et donc c'était pas forcément une mauvaise chose.
Oui, puis vous retournez un petit peu le problème en disant ben non, mais nous on va vous montrer aussi que le cinéma américain ça peut être quelque chose d'intéressant quoi à découvrir.
Oh ben, on en a toujours passé même sous l'ancienne Utopia, il y a pas.
Mais ça s'appelait pas le cinéma s'appelait Utopia quoi.
Voilà, mais le cinéma américain c'est pas que les blockbusters et c'est pas que Hollywood, il y a tout un cinéma indépendant qui est très bien. Donc voilà, mais l'idée du nom c'était vraiment de s'inscrire dans une continuité à la fois d'Utopia et puis du cinéma en général, donc c'était plus important cette continuité là que le risque que le American puisse heurter, donc voilà.
Puis ça fait, il y a quand même dans la sonorité du nom un petit côté vintage, un peu qui vous plaisait. Plutôt.
Ouais.
Et dans effectivement ce que disait Jérémy, en fait, le nom il a été évident la première fois qu'on en a parlé et qu'on s'est dit oui on va proposer quelque chose pour la reprise d'Utopia. Ce nom-là a été d'emblée une évidence et le logo vient de là. Enfin c'est de ce nom que
il vous a inspiré.
Voilà, ouais. Ça nous a inspiré pour beaucoup de choses, donc ça paraissait assez évident qu'on
Et Utopia se vend sa salle de Toulouse. Ça a cheminé. Enfin, à partir de quand vous avez été informé? Alors, Jérémy, toi, tu travailles depuis 12 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Utopia Toulouse.
Toulouse et Tournefeuille. J'ai commencé à Tournefeuille et puis après je jonglais un peu dans les deux.
Ouais. Donc tu sais pourquoi se séparer de cette salle? Pourquoi Utopia a décidé de la laisser à des repreneurs?
Alors Utopia est dans un processus de transmission depuis un moment de toutes ces salles. Utopia Bordeaux se sont transformées en Scope, Montpellier aussi, les autres vont suivre. Et Toulouse-Tournefeuille, c'était une situation un peu plus compliquée. On était deux équipes sur deux lieux séparés. Ça faisait un moment qu'on en parlait et que ça pataugeait un peu. Et donc l'année dernière, dans le courant de l'été dernier... gérante d'Utopia a dit comme on n'y arrive pas, on va mettre Toulouse en vente. Et voilà, nous c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ça serait dommage que enfin il y a plein de gens qui font du cinéma et qui font des bonnes choses, mais Utopia c'est assez particulier, donc on s'est dit pour essayer de le préserver, on va faire une proposition et voilà.
Ouais, parce que des idées vous en aviez.
Oui. Bah, notre principale idée, c'était que ça reste au maximum ce que c'est, et que, vu que moi j'y étais depuis un certain temps, et que Annie connaissait bien, on savait que on pouvait continuer dans cette dynamique-là, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était l'idée de base. Ouais.
Et, c'est pas un cadeau un peu empoisonné, parce qu'il y a, donc il y a deux échéances un petit peu, enfin, il y avait pas deux échéances, mais il y a une augmentation. Il y a eu une menace d'augmentation de loyer d'un côté et une mise aux normes pour que la salle soit accessible qui pend un peu au-dessus de vos têtes, enfin qui vous menace, enfin disons que il y a des gros chantiers cours. Alors est-ce qu'on peut se dire que aussi on vend la salle Utopia Toulouse parce que c'est trop compliqué, qu'on a besoin d'une, peut-être que ce soit des repreneurs qui aient une nouvelle énergie pour s'attaquer
après,
à ces chantiers?
C'est sûr qu'il y avait des raisons que ça soit plutôt Toulouse qui soit en vente, parce qu'on est locataire, parce que pour plein de raisons plutôt que Tournefeuille, voilà. Mais bon, d'un autre côté, c'est certes il y a des difficultés, mais c'est aussi une salle de centre-ville dynamique depuis 20 ans, donc
qui a voilà. reçu de, enfin qui a été ou qui est toujours ou qui a été ou qui va peut-être redevenir une des salles qui a le plus fort taux de remplissage de salles à réessai sur toute la France.
Ouais, c'est vrai que c'était le film français qui calculait ça et que maintenant il le calcule plus, donc on va dire qu'on l'est toujours, mais voilà, on sait pas vraiment.
Alors, est-ce qu'on peut parler de ces questions-là juste pour les évacuer, pour après rentrer dans le vif du sujet de la programmation, sur cette augmentation de loyer, vous en êtes où, donc le lieu appartient à la paroisse Saint-Jérôme, qui a décidé un jour de tripler le loyer.
Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que en fait, la proposition de triplement de loyer est intervenue lorsqu'Utopia a demandé le renouvellement du bail parce qu'ils avaient décidé de vendre, en fait. Donc la volonté de vendre s'est intervenue avant.
Ouais,
et quand
d'accord.
ils ont mis les choses en place, ils se sont rendus compte que le loyer était, que le bail était périmé. Donc ils ont demandé le renouvellement et c'est là que on nous a proposé un triplement. Donc ça a mis les choses un peu en stand-by d'ailleurs pendant un certain temps. Et donc ça va être tranché en fait par la justice là à l'automne. Donc on croise fort les doigts. Après les loyers concernant les baux de cinéma sont assez réglementés. Donc voilà, c'est un risque qui est... enfin on a vu tous les dossiers passer, on a repris l'avocate qui suivait Utopia. Voilà, donc on a envie d'être confiant. Après il y a quand même un risque.
Ouais, d'accord, parce qu'en fait il y a quand même un règlement, enfin une législation, on peut pas augmenter comme ça, on peut pas tripler du jour au lendemain le loyer d'une salle de cinéma.
En fait, les baux de cinéma sont, enfin, le montant du loyer est indexé sur le chiffre d'affaires de l'activité. Ce qui fait, comme nous, on a une activité qui est une activité arrêtée, sans produits annexes, sans confiserie, etc. Enfin voilà, ça a priori, ça devrait moduler les choses. Après, on est quand même aussi en centre-ville de Toulouse.
Ouais.
C'est vrai qu'on a un loyer sans doute qui
dans un lieu central.
Ouais. Voilà.
Ouais. La jurisprudence va plutôt dans notre sens. Après, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais,
c'est un risque. Ouais. C'est vrai.
C'était le risque à prendre pour pouvoir récupérer cette salle.
Ouais.
Donc, voilà, c'est un risque qu'on a pris.
Oui. vous êtes joueur. et puis après la question de l'accessibilité, de la mise aux normes du bâtiment, qui est donc assez compliqué puisque c'est un casse-tête pour des architectes.
C'est très compliqué.
Ouais.
Là, on a déposé un dossier d'accessibilité programmée et qui était couplé à une dérogation. Et donc, il fallait une réponse dans les 4 mois. Réponse qu'on n'a pas eue et pas de réponse valait acceptation. Donc, a priori, on estime que de ce côté-là, c'est bon. On mettra juste en accessibilité la salle 3 qui est au rez-de-chaussée, la petite salle. Et on a cherché toutes les solutions possibles pour les 2 autres salles. Mais vraiment, voilà, on pouvait éventuellement imaginer quelque chose en bloquant tout un côté du hall, mais là, au niveau des sécurités, des sorties de secours, ça passait pas, donc voilà, ce bâtiment, c'est vraiment très compliqué.
Donc, vous auriez une dérogation, du coup, qui vaudrait pour toute l'activité de la salle, qui serait pas remise en question
Dans notre demande de dérogation, c'était une demande de dérogation partielle, on rendrait accessible la salle 3, qui aurait rez-de-chaussée, qu'il faut améliorer un peu, notamment l'accessibilité pour les toilettes, et puis après des systèmes d'affichage, et l'accessibilité pour les sourds et malentendants, et les malvoyants qu'on a déjà mis en route, là. Donc voilà, on a un certain nombre d'années pour faire ces aménagements-là.
Oui, Annie, tu voulais dire... Non, tu sais,
je sais plus.
Alors, on va donc revenir à ce moment-là où vous apprenez qu'Utopia est en vente et vous proposez repreneur. Donc, vous rachetez le fonds de commerce, c'est comme ça. Même oui, dans une salle de cinéma, on dit aussi un fonds de commerce. Comment vous y êtes pris? Comment on fait pour acheter un fonds de commerce?
Alors, on peut refaire les différentes étapes. Donc, d'abord, on s'est posé autour d'une table à se dire, est-ce qu'on va réussir à monter un projet entre l'idée et le concret, voilà.
Oui, parce qu'on en a parlé beaucoup, un peu en déconnant, avant de se dire, pour que ça devienne concret, on se pose, on en discute, on se rend compte que peut-être c'est faisable, parce que faut aussi s'accorder.
Vous connaissiez donc parce que vous avez travaillé, toi tu travaillais à Tournefeuille, Annie, c'est ça?
Alors en fait on s'est rencontrés à la formation de la FEMIS à Paris. On a fait la formation d'exploitant la même année.
Donc vous aviez déjà cette envie-là, quand on fait la formation d'exploitant, c'est quand même qu'on a envie de diriger une salle, de reprendre une salle ou de se...
Oui, mais même quand on rentre à Utopia, c'est souvent un truc qui disent on va essayer de vous apprendre le maximum pour que vous puissiez ouvrir votre salle et prêcher la bonne parole. Et, voilà, donc c'est toujours une idée qu'on garde dans un coin de la tête. Enfin, moi, depuis que je suis arrivé, je me dis que peut-être un jour, ça sera une possibilité. Voilà.
Parce que toi, t'étais déjà directeur.
Oui.
quand tu as fait la formation.
Mais c'est justement parce que je venais d'être nommé directeur et que je trouvais ça beaucoup plus compliqué que prévu que je me suis dit que j'allais faire une formation.
Et donc tous les deux, vous êtes en formation à la même année,
voilà,
à la FEMIS, et vous, et donc il y a cette proposition. Enfin,
non. Alors après ça, pour le coup, après la FEMIS, moi j'ai décidé que c'était que je voulais essayer de voilà monter un projet quelque part, essayer de reprendre ou créer une salle, je savais pas trop. Et donc j'ai recontacté Anne-Marie et Michel, les gérants d'Utopia, qui là m'ont proposé de venir. Moi je voulais des conseils, ils m'ont proposé de venir travailler à Tournefeuille. Donc depuis 2013, j'étais à Utopia avec des pauses, mais voilà, j'ai travaillé à Tournefeuille puis à Toulouse depuis septembre l'année dernière. Et voilà.
Et auparavant, tu travailles dans une autre salle ?
Alors j'ai travaillé dans pas mal d'endroits. Juste avant Utopia, je travaillais pour un circuit de cinéma itinérant en région centre. J'ai travaillé aussi pour une petite salle à Poitiers qui s'appelle le Dietrich. Petite salle de l'écran.
Oui, oui, oui. Comme on aime bien. Voilà. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, oui.
Voilà, après il y a eu des petites expériences, des bords de mer, des choses comme ça, mais voilà.
Donc toi, tu viens pas tout à fait de l'école Utopia, tandis que Jérémy, toi, tu as fait toutes tes classes.
Je suis un pur produit.
Pur produit Utopia. Donc vous vous retrouvez autour de ce projet de racheter Utopia Toulouse.
Voilà, donc on en discute, ça nous paraît assez évident qu'on va réussir à tomber d'accord, tout ça. Après, la première étape, c'était de convaincre les gérants d'Utopia. Donc là, on leur a présenté à eux d'abord un projet qui était plus un projet, j'allais dire, idéologique, quoi. Voilà. Ouais. Qui les a plutôt séduits, donc là, c'était là le nom, justement, l'univers. Et à partir de là, après, c'était plutôt les questions financières. Donc on a trouvé un expert comptable qui nous a beaucoup aidé à monter les dossiers, ouais, pour les banques et tout ça, parce que alors, ça vraiment c'était compliqué, ouais, pour nous. Le Crédit Coopératif a été plutôt très réceptif tout de suite, et puis on savait que l'IFSIC, qui est l'Institut de Financement des Industries Culturelles, et notamment du cinéma, mettait en place une nouvelle aide pour les jeunes repreneurs. Donc on allait les voir aussi, on était éligibles, il a fallu le temps que ça se mette en route, mais voilà.
Oui. Oui, parce que pour le coup, il y a une question qui inquiète un peu la profession, c'est qu'effectivement, toutes les salles indépendantes de centre-ville sont gérées par des gens qui arrivent en fin de carrière, mm-hmm, en tout cas, qui ont envie de trouver des repreneurs, et que les seuls exploitants capables de racheter ces fonds de commerce sont les circuits commerciaux. Donc en fait, il y a le risque un peu que la France soit envahie par les Gaumont, UGC, tout ça.
Oui, que la diversité de l'offre cinématographique, ouais, se perde. Quoi.
Exactement. Ouais. Et donc c'est donc suite à ce constat, ouais, que l'IFSIC a mis en place, parce que il y a aussi notamment avec la formation de la FEMIS toute une génération de jeunes exploitants qui arrivent et des gens qui ont plein d'envie et pas les moyens, ouais, financiers. Ouais. Et donc voilà, l'IFSIC a mis en place ce dispositif dont on a pu bénéficier. On est les premiers d'ailleurs, parce que c'est depuis janvier l'année dernière que ça a été mis en place. Janvier 2016 d'ailleurs. Et voilà. Enfin, c'était.
Et pour nous, c'est un peu ce qui a permis de débloquer le dossier. Sinon, ouais, on aurait été court. Ouais. Et,
ah, on, voilà, aurait été très très court.
Ça se dit le prix de vente du fonds.
Ah oui, c'était marqué dans la Gazette. Très bien. 1 200 000 euros.
Vous avez pas eu une ristourne ?
Non. On a eu une aide particulière de la part d'Utopia, qui est une espèce de crédit vendeur. En fait, c'est qu'on continue, et ça durera, c'est un accord qu'on a vraiment pour toute la vie, on va dire, avec Utopia. On continue d'accepter les carnets d'abos Utopia,
oui, oui,
et y compris ceux qui ont été vendus avant la cession. Et en fait, on a estimé le montant de ces abonnements qui sont dans la nature, et on n'a pas payé ça au, ouais, moment de la, ouais, cession, d'accord, mais par contre, ils nous remboursent pas. C'est clair ou pas?
Oui. Parce que, ouais. Enfin, je comprends.
Enfin, on reçoit les abonnements d'Utopia, on leur refacture, et il y en a une partie qui vont pas nous, on va leur refacturer, mais qui vont pas nous payer, qui viendront
en compensation du crédit qu'ils ont, ouais, fait au moment,
ouais,
de la.
Ouais, ouais. Voilà. C'est ça. En fait, ils vous ont avancé,
ils nous ont avancé des,
ouais,
sous.
Voilà. Ouais. Et, bon, alors, du coup, maintenant, ça change tout. Depuis qu'on est, quand on devient son exploitant. Alors, vous étiez déjà, vous travaillez déjà à Utopia. Donc, vous connaissez les lieux, vous connaissez votre équipe.
Oui. L'équipe,
donc, déjà, vous êtes passé de statut de collègue à directeur. Bon, toi, t'étais, ouais, déjà directeur.
Moi, j'étais déjà
là,
un peu directeur dans le ressenti. Mais là, c'est vrai que ce qu'on ressent vraiment, alors, nous, on se sent un peu plus responsable de plein de choses que ça, mais là, ce qu'on voit vraiment et qui est plutôt super, c'est qu'il y a une vraie dynamique. Il y a enfin là on se sent pas patron et voilà, on sent au contraire que toute l'équipe qui est la même équipe est dans une dynamique avec où on voit qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Donc là pour le moment ce qui change c'est plutôt ça, c'est une dynamique qui est très positive quoi.
Et après quand même c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient gérées à Tournefeuille, parce qu'à Toulouse on a des très petits locaux, donc il y a beaucoup de choses qui étaient délocalisées en fait à Tournefeuille en termes de gestion financière, la Gazette, enfin maintenant c'est Jérémy qui met en page le fanzine.
Ouais.
C'est nous qui mettons à jour notre site internet, enfin on fait absolument tout quoi, donc c'est beaucoup de travail.
Vous récupérez en fait au fur et à mesure toutes les tâches.
Ouais, voilà, tout se passe maintenant dans les murs de Toulouse. Ça fait que je pense que pour l'équipe, ça doit être aussi... Ils doivent peut-être être plus au courant des choses, je ne sais pas, ou se rendre compte.
Ouais.
Enfin, bon.
Et comment vous avez monté votre projet d'une direction à deux têtes, enfin, est-ce que vous avez réparti des tâches? Est-ce que vous avez décidé que chacun...
On n'arrête pas de se dire qu'il faudrait qu'on le fasse, mais c'est assez compliqué. Après, il y a certaines choses qui se sont faites un peu naturellement. J'aimais bien faire des trucs sur mon ordinateur. Alors bon, voilà, j'ai fait le fanzine.
Sur la mise en page, le fanzine, ouais.
Et sur la comptabilité, je suis moins au point, donc c'est plutôt Annie qui le fait, mais... Pour l'instant, ça s'est fait naturellement, mais on n'arrive pas à se poser, à dire « toi, tu fais ça », parce que tout est un peu lié, quoi. Donc, bon, pour l'instant, on se tient beaucoup au courant, on discute beaucoup, et ça marche plutôt comme ça, quoi.
Vous avez rencontré d'autres d'autres duos de directeurs de salles, parce qu'il y en a quelques-uns en France, pas beaucoup, c'est assez rare.
Moi, j'avais rencontré les filles de HR, il y a un cinéma qui s'appelle Le Pandora à HR, qui est un enfant d'Utopia, un peu.
Oui, oui.
Et effectivement, c'était ces deux filles qui gèrent le cinéma. Mais j'ai pas l'impression que ça... Je pense que chaque structure trouve son équilibre d'une manière ou d'une autre. Et ça dépend aussi beaucoup, je pense, des personnalités. Donc, je sais pas s'il y a un modèle de ça.
En tout cas, vous inventez le vôtre, quoi. Vous l'avez pas vraiment projeté.
Bah non, et puis je crois que c'était assez évident pour l'un comme pour l'autre. Que tout seul c'était compliqué, enfin la question s'est pas posée. On en a discuté très vite, on est assez tombé d'accord, et puis quand on a monté le premier projet, on a bien vu que même dans des moments un peu de stress où on n'était pas d'accord, tout ça, on arrivait toujours à continuer à avancer.
Ouais. Ouais.
Donc à partir de là, c'était plutôt positif, et on continue comme ça, quoi.
Ouais. Mais... Oui, parce qu'après quand même, entre le moment où on a décidé, il s'est passé un an entre le moment où on a décidé qu'on allait proposer quelque chose, et le moment où la vente s'est faite, effectivement. Donc pendant toute cette année-là, on a quand même continué à travailler pour chaque étape et tout ça. Donc finalement, ça s'est très bien passé pendant un an. Donc ça prouvait aussi peut-être qu'on en était capable dans le quotidien.
Oui.
Et puis c'est vrai que ça se passe bien aussi. Non, donc...
Mais vous n'avez pas eu de remarques en vous disant attention, d'être deux, ça peut fragiliser si vous vous entendez pas. Vous n'avez pas une méfiance particulière, du côté de la banque, du côté d'Utopia.
Alors, on nous a pas mal dit que c'était pas mal d'être deux et qu'on était complémentaires et
donc,
tout ça.
Donc, au contraire,
donc voilà.
En fait, ça a plutôt encouragé.
Après, c'est vrai que pour des questions plus juridiques, on nous a dit qu'il fallait prévoir quelques garde-fous, qu'on va faire, quoi. Mm-hmm. Mais, voilà. Pas plus que ça, non. On nous a pas plus mis en garde que ça.
Ouais. Moi, j'avais fait une formation de gestion pour me préparer aussi, c'est-à-dire. Et on m'avait dit surtout 50-50, jamais dans une entreprise. Tout ça. Bon, puis c'est quand même ce qu'on a fait.
C'est ça, ouais.
Mais bon, effectivement, enfin voilà, on a quand même anticipé des choses en se disant que si jamais un jour on n'arrivait pas à s'entendre sur des questions importantes, il fallait qu'on trouve une tierce personne, quelqu'un pour prévoir
une médiation.
au moment où ça va bien de prévoir. Mais bon, on espère qu'on n'en aura pas besoin.
Ouais. Mais bon, après, c'était dans un contexte un peu différent. Moi, je connais deux personnes qui ont postulé pour faire une direction à deux têtes à l'ABC, et on leur a dit, mais si vous vous fâchez... Donc, il y a encore une sorte de méfiance comme ça. On a encore beaucoup le modèle d'un seul directeur et d'un seul propriétaire, donc en l'occurrence là. En ce qui concerne le fonds de commerce, quoi. Mais si vous n'avez pas eu ces réticences, ça veut dire quand même que il y a une certaine ouverture.
Presque l'impression de l'inverse, que comme on est quand même assez jeune et tout ça, enfin il y avait relativement quoi.
Mais, oui, parce pour s'engager sur un rachat aussi important.
Il y avait quelque chose plutôt
de
rassurant parce qu'il y avait une complémentarité dans les compétences, tout ça. Donc non, on n'a pas du tout ce truc-là, quoi.
Et pour le coup, moi, je tiens à dire quand même quelque chose parce que ça m'agace quand même vachement au quotidien. Et je sais pas si ça joue. Mais de fait, on vit dans une société quand même hyper sexiste. Et que le fait qu'on soit un mec et une nana, et ben, c'est toujours Jérémy Bretta, les contrats sont toujours, j'ai même reçu un contrat au nom de Monsieur Animao. C'est dire à quel point on n'accepte pas que les femmes soient, voilà. Donc, c'était mon petit moment. Donc je sais pas si voilà, est-ce que du coup il y a un truc de comme c'est un homme une femme, il y aura toujours je sais pas.
Ouais, puis après là aussi il y avait une question autre, c'est que comme il y a un investissement et du coup une prise de risque, si vous êtes deux, effectivement ça la partage et Et bien maintenant on va attaquer un peu le vif du sujet. Alors qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change pas? Quelles sont vos envies pour cette salle de cinéma?
Bah alors, on a bien dit que l'idée c'était la continuité et tout ça. Après, moi qui suis un pur produit Utopia, ce que j'ai appris Utopia, c'est que le cinéma ressemble forcément aux gens qui travaillent et qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts exactement que ce que pouvaient avoir les anciens gérants, tout ça. Donc, petit à petit, on va mettre en place des choses qui nous plaisent. Enfin, là, on le voit par exemple sur ce programme, on fait un double programme un peu film de genre avec The Witch qui n'était pas sorti à Toulouse et The Serpent and the Rainbow. C'est pas forcément des choses qui seraient faites à Utopia. Et par contre, nous, c'est un cinéma qu'on aime beaucoup. Donc voilà, ça va venir par des petites choses comme ça, petit à petit. Mais après, on va continuer à essayer de passer des très bons films, à faire plein d'animations, tout ça. Enfin voilà, ça va continuer vraiment dans l'esprit, mais plus à notre manière.
Ouais. Voilà. Ouais, c'était votre, c'est ça qui vous motivait dans la reprise d'une salle, c'est aussi de s'exprimer, d'exprimer ses goûts, de transmettre.
Il y a toujours un truc de, ça c'est aussi un des trucs forts d'Utopia, mais je pense qu'on est complètement dans cette lignée-là, c'est que Utopia se positionne pas en sachant par rapport à des spectateurs, se positionne en spectateur par rapport à ses spectateurs. Et donc ben, nous c'est un peu la même chose, on voit les films. On choisit les films et on essaye de dire aux gens pourquoi on a aimé ces films-là, pour qu'ils viennent les voir et qu'il y ait, notre travail, c'est que la rencontre entre le film et le spectateur puisse se produire dans les meilleures conditions. Donc, voilà.
Et alors, pour le moment, vous vous programmez pas encore tout seul? C'est prévu ou est, enfin, vous pouvez m'expliquer comment ça se passe?
Bah alors, une des premières choses qu'on s'est dit, c'est que quand même on allait avoir beaucoup de choses à faire et que la programmation c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est pas forcément facile, et qu'on avait la chance de travailler avec Patrick Troudet qui programme tous les Utopias et qui est quelqu'un avec qui on travaillait très bien, qui est super quoi. Donc on lui a demandé,
qui dirige la salle de Bordeaux.
Et qui dirige la salle de Bordeaux. Ouais. Et donc une des premières choses, c'est qu'on lui a demandé au moins un accompagnement pour un temps un peu indéfini, le temps que qu'on soit en place quoi. Donc là, on est dans cet accompagnement, donc il continue à faire la programmation.
Donc vous lui donnez vos choix de films dans les films qu'il a déjà repérés, ou vous faites comme vous voulez?
Bah, il est un peu toujours au courant de tout, beaucoup plus tôt que nous. Bon, voilà. Après, c'est vraiment des discussions. Il nous parle de films qu'il a vus, on lui parle des films qu'on a vus. Enfin voilà, on essaie toujours de trouver un compromis. Il y a aussi la situation concurrentielle à Toulouse qui fait qu'il y a certains films même qu'on aime et qui sont dans les partages pour les autres salles. Enfin voilà. Et donc, il nous programme, on en discute beaucoup plus, on essaye de prendre beaucoup plus part à ça, mais il faut le temps que ça se passe. Il avait l'habitude d'avoir le contact avec tous les distributeurs, nous pas forcément, donc voilà, c'était là encore l'idée d'une transition en douceur. Ça se passe pour l'instant, on n'a pas fixé de date limite. Voilà.
Mais vous avez envie de reprendre la main là-dessus un jour, quand vous sortirez la tête de la bassine d'eau.
C'est un peu un mélange d'envie et de peur, quoi, ouais. On va vers là en tout cas, mais voilà, on sait pas combien de temps ça prendra.
Et du coup, comment vous avez préparé ce nouveau programme là qui est arrivé hier, sur 5 semaines, donc c'est assez fastidieux, j'imagine.
Ça fait... Pour le coup, ça c'était vraiment les habitudes de travail aussi d'Utopia, donc on participait à la Gazette avant, donc ça se passe un petit peu pareil en fait.
Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que le grand changement, c'est qu'on a un peu la main sur tout. On voit les films, on décide de les programmer et on décide comment on va communiquer dessus. On fait le fanzine, on a le site internet, on est maintenant sur les réseaux sociaux aussi. Ce qui est plutôt très rigolo. Mais voilà, tout ça, c'est des moyens de transmettre les films qu'on a aimés et notre envie de les partager et tout ça. Donc c'est vraiment le vrai changement. Donc, faire un fanzine comme celui-là avec des films dedans qu'on a plutôt aimé et qu'on a envie de mettre en valeur, ça prend du temps, mais c'est très excitant, quoi. C'est vraiment chouette.
Ouais, donc, c'est la belle partie du travail.
Donc en général, c'est une semaine un peu chargée, mais très dynamique, quoi. Mmh. Voilà.
Auparavant, quand tu étais directeur, tu programmais aussi, tu faisais toi-même ces grilles ou c'était
Alors, je faisais les grilles de programmation. Après,
tu choisissais pas les films.
En partie, enfin, on donnait notre avis, mais c'était beaucoup plus collégial, ce qui est encore un peu le cas, mais sauf que le collège est plus réduit.
Oui, voilà. Enfin, voilà, c'est plus restreint.
Mais Utopia s'appuie quand même toujours sur les équipes des salles
pour choisir sa fille.
Surtout aussi sur les petites choses, parce qu'il y a des films dont on sait qu'il faut les sortir de toute façon. Mais sur les petits films, si jamais l'équipe de Toulouse a détesté, on va pas nous. Enfin, quand on était Utopia, on nous aurait pas imposé un film. C'est vrai que c'est pas l'idée, quoi. Donc, et à l'inverse, un film que l'équipe de Bordeaux aurait détesté, mais que l'équipe de Toulouse aurait adoré, on aurait pu le passer.
Mais c'est pour ça aussi qu'on a continué comme ça, parce qu'on aimait bien travailler avec Patrick de cette manière-là, sous une forme de discussion, quoi.
Mais ce qui suppose quand même, c'est si vous souhaitez continuer cette façon de programmer, c'est que tout le monde puisse voir les films. Et ça, c'est peut-être là où ça devient compliqué.
Oui, Alors, on fait pas mal de visionnage. Après, ça prend un temps infini de voir les films. Ouais. Pas mal de visionnage, de plus en plus, en salle. Et puis après, on reçoit beaucoup de films. Aussi, DVD, via Vimeo. Ouais. Voilà, on essaye de se répartir, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Oui, mais ça, de toute façon, il va falloir. Voilà. Et puis, c'est plutôt la partie sympa du travail. Il faut juste trouver le temps, quoi.
C'est une question d'organisation.
Ouais. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette période de transition, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la programmation et que c'est pas un truc qu'on peut faire pas bien, quoi.
Ouais. Voilà. Et en plus, il y a un gros travail de lien avec les distributeurs et de suivi. Les gens se connaissent par téléphone au bout d'un moment et tout ça. Et voilà, Patrick, il connaît vraiment tous les distributeurs, ce qui n'est pas encore notre cas.
Oui, ça se fait pas comme ça, juste en claquement de doigts.
Donc il explique beaucoup la transition et tout ça. Enfin, il fait le passage, quoi. Donc,
je sais pas, il vous accompagne. Ça va prendre, On va écouter, puisque on parle de cinéma, là, on va écouter la bande-annonce d'un film que vous avez mis en avant, D'une famille à l'autre.
Ah, oui.
São 17 anos te procurando.
Mas alguém entrou naquela maternidade e roubou.
Esse aqui é teu pai, o nome dele é Matheus.
Já tenho família.
Eu também fui roubada.
Felipe, o que você está achando do comportamento da sua mãe?
É Pierre, porra!
Um brinde ao Felipe.
Pierre.
E vai querer ser o quê? Vai fazer o quê na vida? É?
Ele gosta de música.
Nós somos os pais biológicos da Cristina.
Nossa, tá sua cara.
Eu respeito os seus sentimentos. Dá um pouco mais de tempo pra gente.
Seu Felipe,
peraí. Por que somos cheios, filho?
Vou visitar minha mãe.
Alors, un véritable coup de cœur pour ce film commun, collectif.
Oui. Et à vrai dire, on était en train de commencer à réfléchir aux fanzines, et il y avait plein de films qu'on aimait bien, mais on voyait pas quoi mettre en première page, et quand on a vu celui-là, ça a vraiment été une évidence, parce que c'est vraiment un très joli film. Et ce qui est très bien d'écouter la bande-annonce à la radio, c'est que ça n'est pas dévoilé le poteau rose, qui est un peu trop dévoilé
dans
à
la bande-annonce,
alors que vraiment le film a un rythme où tout vient petit à petit, et c'est un film très délicat, très joli.
On suit un jeune homme, 17 ans, qui va passer d'une famille à l'autre.
On peut dire ça.
Et donc, ce film, vous le soutenez. Et puis, en général, comme auparavant avec La Gazette, les spectateurs savent que le film que vous mettez en couverture, c'est votre film coup de cœur. Personne, enfin, tout le monde a compris ça.
Y a pas J'espère, de... oui. Sinon, on le répétera, mais oui, en tout cas, c'est l'idée, vraiment.
C'est l'idée, ouais. Alors, et ensuite, vous pouvez me raconter donc qu'est-ce qu'on peut découvrir là pendant ces 5 semaines dans la salle. Alors, moi, je le sais, j'ai le programme sous les yeux, mais je préfère que vous en parliez vous. Peut-être quelques films comme ça que vous avez envie, quelques films repérés, ou si vous voulez tout me lire, parce que vous aimez tout.
Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal qu'on aime. moi, j'ai un petit faible pour Gibor, parce que le Québec, ça me parle, mais voilà, Gibor s'en va en guerre, c'est un film donc québécois, canadien-québécois. Et c'est l'histoire d'un député du nord du Québec qui se retrouve obligé d'un seul coup de voter pour ou contre la guerre, pour ou contre l'entrée des troupes canadiennes dans un conflit à l'autre bout du monde, et il n'est pas habitué à ce que politiquement il n'est pas habitué à avoir un pouvoir politique en fait, et d'un seul coup il faut qu'il gère avec ça, et il est accompagné par un jeune haïtien qui lui est venu là pour apprendre la démocratie et qui du coup lui, enfin on revient un peu aux bases de ce que devrait être la démocratie avec ce que c'est en fait aujourd'hui concrètement, et c'est très drôle, c'est traité de manière un peu décalée parce que je me perds.
De manière très québécoise en fait.
Ouais. Ouais. Enfin voilà, on a une opposition aussi entre les problèmes très locaux et les préoccupations nationales,
ouais.
et internationales. Enfin voilà, c'est très réjouissant, c'est très drôle et il faut absolument venir voir ça.
Et c'est très malin en plus, ouais. Ça dit des trucs derrière le.
Oui, oui, voilà.
Mais je me suis baladée du coup en consultant votre programme. Je fais comme tout le monde, je vais voir les bandes annonces et celle-ci, je l'avais repérée. On va l'écouter avant de revenir un peu plus sur vos films à vous. D'où vient votre goût du cinéma. Mais donc du coup, on va écouter Gibor. C'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
C'est comme ça.
Il y a pas un nom plus long dans le titre du film.
Gibor s'en va en guerre.
Voilà, c'est ça. Merci.
Souris, c'est ça. Oui. Mais pourquoi tu veux suivre un stage ici à la ville, loin de la capitale, loin de tout?
Eh bien, j'ai envoyé ma lettre à 100 députés, mais vous êtes le seul qui m'a répondu.
T'arrives tout exactement.
Pour au presse, exactement.
Okay.
Pour le stage, je suis en mission pour apprendre.
Quand je suis au Parlement, les lundis, vendredis, je consacre au bureau. Lis mes documents, raconte le monde du comté.
Je suis une fille du Nord, née une nuit d'aurore.
Mardi, mercredi, jeudi, je fais du terrain. Tu vas voir. Pas ça qui manque par ici, du terrain. Vous voulez quoi aujourd'hui?
Commencez, là. Appuyez-nous donc.
Il n'y a pas de secret, hein, souverain. Faut rester proche du monde.
Je demande un mandat clair au Parlement pour envoyer l'armée.
Tu vas voter pour?
Je vais m'abstenir.
T'abstenir?
Je vais commencer par régler les problèmes dans le comté, je sauverai la planète après.
Vous pouvez consulter les électeurs. Vous êtes indépendant.
Pas sûr que j'ai le temps pour ça, moi. Quelqu'un qui veut une bière?
Monsieur Gibor! Venez!
La députée conservatrice de Peace Valley en Alberta a annoncé qu'elle s'abstiendra. Lors du vote sur l'envoi des troupes canadiennes.
Conservateur, 155 sièges.
Les conservateurs ont perdu un vote.
P. L'opposition, 153 par mois.
Vous avez, comment dire, la balance du pouvoir sur la guerre?
Vous êtes pour ou contre envoyer l'armée canadienne faire la guerre?
Dans la situation, il y a ici toute une magnifique fenêtre de démocratie directe. Je pense que c'est mon devoir de consulter la population.
Le vote décisif?
Oui, dans ma attitude, ça me fait monter le stress.
T'as une chance de montrer que t'es un leader, Steve.
Monsieur Gibor, vous avez l'appel d'Ottawa. C'est le bureau du premier ministre.
I'm about to reshuffle my cabinet. I can name whoever I want, as long as the person is an elected member of parliament.
Sais-tu comment le monde va me regarder? La fille du gars qui envoie ma génération en guerre.
Monsieur le maire, si toi puis moi, on est pas sans même longueur d'onde. Tout le monde pense que c'est moi le gros méchant.
Vous bloquez les routes pour que les Algonquins ne bloquent plus la route.
C'est sûr que, d'une même...
Arrête de subir. Prends mes commandes.
Bim. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Gibor.
Je vais vous dire, moi, ce qui va changer si on part en guerre. Des gens! Qui c'est qui est pour la guerre?
T'es rentré en politique pour changer d'affaires?
Mais tu peux pas.
Même avec la plus grande volonté du monde, t'as pas de pouvoir.
Ce serait le fun que nos sacrifices en veillent la paix.
Votez pour Canada for Freedom.
Le monde ici, ils veulent des jobs.
Avez-vous fini de nous prendre pour des melons?
Moi, je dis fuck off.
Tu n'as pas d'opinion.
Ton vote est pas à vendre.
Pour ou contre?
Il me semble que c'est simple.
Puis toi, Gibor, c'est quoi ton opinion?
On dit gang de malades!
Qu'est-ce que c'est ça?
T'as appris dans tout ça?
J'ai appris que je ne savais rien.
Oh boy. Ça fait des années que j'ai compris ça.
Oui, une bande-annonce qui donne envie. Hein. Ouais.
Ouais.
Alors, est-ce que je peux vous demander d'où vient votre goût du cinéma vos premiers films, vos premiers souvenirs de cinéma. Alors Annie a l'air très embêtée pour répondre tout de suite, si à chaud comme ça. Ça pourrait. Alors vas-y, je t'écoute.
Alors moi, j'ai découvert le cinéma un peu tard et je crois que c'est grâce à une professeure de français quand j'étais au collège qui nous emmenait. J'étais au collège à Angers, donc il y a le festival Premier Plan là-bas.
Ouais, ouais.
Et donc j'ai découvert La Promesse des Frères d'Ardenne et Le Festin de Babette en allant au festival Premier Plan. Et je crois que j'avais jamais vu de film un peu particulier, ouais. Ou en tout cas voilà. Et suite à ça, j'ai fait cinéma au lycée, cinéma, tout le temps. Voilà, je sais pas si ça a été le déclic, mais en tout cas, si on doit dater, on peut dire ça, peut-être.
Et un genre particulier ou grande ouverture, dans quoi tu te retrouves le plus, s'il y a un genre dans lequel tu te retrouves le plus, dans le cinéma réaliste toujours ou ça...
Alors moi j'ai l'impression que le cinéma ça me sert à la fois à me couper du monde et à rentrer dans un univers complètement... Je me laisse emmener dans des histoires et à la fois c'est aussi mon moyen d'apprendre des choses. Enfin ça me sert à peu près à tout. Donc j'aime des films vraiment très 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 différents. Après, enfin je saurais pas dire des films... Mes films de chevet, peut-être Jerry de Gus Van Sant, qui est un de mes films absolument. Mais il y en a beaucoup, alors je sais pas.
De toute façon, le film de chevet peut changer d'un jour à l'autre.
Ouais, hein. C'est vrai. Non, il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile qu'on commence à en parler, ça fait.
Bah oui.
Ah, ça, ouais.
Et Jérémy?
Eh ben, moi, c'est un peu pareil. Je pense que j'ai découvert le cinéma assez tard. Enfin, jusque-là, moi, c'était, quand j'étais plus jeune, c'était aller voir Jurassic Park et bouffer au McDo avec des copains, quoi. Voilà. Et puis, un jour, mon grand frère, qui était plus cinéphile que moi, m'a amené voir Breaking the Waves à Utopia Avignon.
Ah ouais.
Et voilà, je me souviens que j'ai absolument rien compris au film et tout ça, mais que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose et que je suis allé le revoir tout seul. Et à partir de là, j'ai fréquenté Utopia Avignon, parce que j'habitais là-bas.
Ouais,
et puis, de fil en aiguille, voilà.
Ouais. Et on change, enfin j'imagine vous allez me dire oui, mais son regard change sur les films quand on programme, quand on a ce rôle-là, ben de le proposer à d'autres, même si c'est pas un film qu'on adore, mais on voit énormément de qualité, on se dit il faut le faire découvrir.
Moi je crois que j'aime d'autant plus le cinéma depuis que j'y travaille, parce qu'il y a ce côté découverte, on reçoit un DVD avec rien d'écrit dessus, on sait pas trop ce que c'est.
On n'a rien entendu, on n'a rien lu.
Voilà, ouais. Et là il y a vraiment ce truc de la découverte, et après de se dire qu'on va peut-être pouvoir avoir un petit rôle en local dans la vie de ce film-là, ouais, ça je trouve ça vraiment super.
Ouais. Après par contre, la difficulté c'est de rester ouvert à tous les films. Et de leur donner, parce que en fait quand on les regarde à l'avance, on leur donne ou pas une chance, quoi, d'être. Et donc c'est essayer de rester vierge de tout a priori, être suffisamment attentif et tout ça pour donner sa chance au film déjà avec nous et voir si il va avoir une chance aussi avec le public.
Oui. Ne pas s'enfermer en se disant bon celui-ci il marchera pas trop, alors qu'en fait c'est le spectateur, enfin c'est les spectateurs qui vous diront s'il marchera ou pas, quoi. C'est sûr. Mais en même temps, vous avez aussi besoin de remplir votre salle, que le cinéma tourne, et donc
c'est toujours un équilibre à trouver. Ouais, ouais, voilà. Mais après, nous, c'était un peu l'esprit d'Utopia qu'on continuait à faire, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui nous accroche, qui nous plaise d'une manière ou d'une autre, quoi. Et voilà, après, il faut trouver l'équilibre entre les films dont on sent qu'ils ont un potentiel et ceux dont on sent qu'ils en ont moins.
Oui,
mais,
bien sûr. Ouais.
Mais voilà, qu'il y ait toujours quand même un intérêt dans un cas comme dans l'autre, quoi.
Alors c'est peut-être encore un peu jeune, mais vous avez déjà eu des surprises là de films où vous pensiez que ça allait avoir, qu'ils allaient avoir un petit public, et puis que les spectateurs font des retours dessus en disant que c'est super et puis que vous le gardez. Enfin, peut-être pas encore.
Moi j'ai quand même eu une surprise relative, mais on a sorti La Tortue Rouge que moi je trouve absolument magnifique, mais on sait que l'animation c'est pas facile, que les gens se disent que c'est pour les enfants. Et pour le coup, ils ont vraiment bien réagi, parce que d'abord, il y a eu du monde, et que ça, c'était la première bonne surprise, et que beaucoup adorent vraiment le film, et même les adultes, sans se dire que c'est pour enfants. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise, en l'occurrence.
Même si, effectivement, c'est quand même un film qui a une couverture médiatique, enfin, c'est pas tout petit non plus.
Non, puis bon, il y a Ghibli qui produit, mais effectivement, c'est quand même un pari, parce que...
L'animation pour adultes, c'est pas ça.
Nelly, ma collègue, donc hier, a fait une chronique sur ce film en disant qu'elle comprenait toutes ces belles choses qu'on peut dire sur ce film, mais que elle, à un moment quand même, pendant la séance, elle a ressenti un peu d'ennui. Elle était presque un peu gênée de le dire, mais en même temps, elle a ressenti. Ouais. Donc, mais c'est presque ce qui est drôle, c'est que on est presque gêné de dire ça, puisqu'il y a quand même un enthousiasme autour de ce film c'est vrai que c'est une belle histoire quand même avec ce réalisateur qui prend tout son temps, 9 ans pour faire un film d'animation.
Ouais, et puis le film est pas forcément facile. Enfin, c'est vraiment un univers, on n'a pas toutes les clés. Enfin, voilà, le film est pas forcément facile. Mais quand on se laisse embarquer, je trouve que,
ouais. Donc, le public s'est laissé embarquer chez vous, apparemment.
Oui, très.
C'est un bon public.
Après, pour que la rencontre entre le public et le film se fasse, enfin, c'est à chaque fois une expérience particulière, en fait, et propre à chacun. Et je pense qu'on peut vraiment, suivant le jour où on va voir le film, l'état d'esprit dans lequel on est, typiquement un film de chevet qui est un de mes films préférés aussi, qui est 8,5 de Fellini. La première fois que j'ai regardé 8,5, je me suis endormie. J'ai trouvé ça horriblement chiant et tout ça, je me suis endormie. Et quand j'ai redécouvert 8,5 plus tard, je me suis dit, il faut quand même que je le vois de bout en bout. J'ai trouvé ça incroyable d'avoir réussi à m'endormir devant ce film. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je l'ai regardé 15 fois depuis. Et voilà, typiquement, je pense que parfois, si c'est pas le moment, il vaut mieux pas voir un film.
Oui. Et puis s'endormir devant un film, c'est plutôt bon signe, parce que je crois que quand le film est vraiment insupportable, on n'arrive même pas à s'endormir.
Peut-être.
Enfin, moi, je m'endors pas devant un film qui vraiment me déplaît. Ouais. Je sors, quoi. Dans ce cas-là. Si je m'endors, c'est plutôt bien. Alors, j'ai demandé à Thierry, qui est chroniqueur ici à Canal Sud, de me parler de son film de chevet. Et on va l'écouter maintenant, tout de suite. La parole à Thierry.
Bon ben voilà, moi c'est Thierry. Et j'ai un rapport au cinéma un peu compliqué au départ. C'est un rapport de frustration. Voilà, parce que comment dire, j'avais pas le droit au cinéma. Mes parents considéraient que c'était un art mineur, qu'il y avait des choses plus importantes. Il y avait la bibliothèque familiale, il y avait la musique classique, il y avait l'opéra, il y avait voilà, et le cinéma, bon, sans intérêt. Du coup, quand j'étais à l'école, à l'époque, en plus c'était à l'époque où les cinémas avaient encore des photos en devanture pour éclairer le client, voilà. Donc à l'école, c'était le jour de congé en semaine, c'était le jeudi à l'époque, c'était pas le mercredi. Donc le vendredi, les copains, ou le lundi d'ailleurs, me racontaient les films qu'ils avaient vus le week-end ou le jeudi. Et moi, j'avais rien à raconter, parce que j'avais rien vu, donc du coup, je trichais un peu, à partir des photos, voilà, que je pouvais voir de temps en temps, comme ça, à la dérobée. Mais en fait, j'ai raté, du coup, tous les grands classiques, on va dire, des années 70. Enfin, quand je dis grands classiques, c'est en films commerciaux, hein. C'est-à-dire, bon, les noms de la mer, j'avais pas encore l'âge, mais je pense à La Tour Infernale, des films comme ça. J'en ai vu aucun. J'ai vu aucun film catastrophe des années 70. En plus, ça a mal démarré parce que le premier film dont je me souvienne vraiment, ça m'a foutu des cauchemars pendant au moins 2-3 mois, que j'avais vu avec ma grand-mère. J'étais très très jeune, donc c'était L'Homme qui rétrécit, de James Whale. Donc le film Universal en noir et blanc, là, production Disney. Mais quand même, pour un gamin de 4-5 ans, c'était quand même impressionnant. Voilà, et puis ça en est plus ou moins resté là, sauf que j'ai quand même vu, justement, une fois avec ma grand-mère, heureusement qu'elle était là, Laurence d'Arabie. Là, ça a été vraiment une claque monumentale, je peux dire, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma, c'est clair. Bon. Voilà, et entre-temps, j'ai déménagé aussi, enfin mes parents plutôt ont déménagé, j'ai déménagé avec eux, ils me sont trouvés perdus au fin fond de la campagne, ce qui n'a pas aidé, sauf qu'on avait un instituteur en dernière année, qui était un passionné de cinéma, et je me souviens qu'il nous avait raconté le dernier jour de vacances, avant les vacances en fait, il nous avait raconté 2001, parce qu'il a été sorti, et il nous a raconté par le menu tout le film. Et ça m'a même passionné, même si j'avais pas vu une image, voilà. Et donc, le cinéma pour moi c'était ça. Voilà, c'était avant tout des gens qui pouvaient raconter des histoires à partir du cinéma. C'est la première marque avec cet instituteur à qui je dois beaucoup. Du coup, sachant que j'étais assez dissipé en classe, c'est pas que j'étais un mauvais élève, mais j'étais assez dissipé quand même. J'ai trouvé le moyen quand même d'avoir 13 avertissements alors qu'il n'y en avait que 12 de prévus sur le carnet, donc, voilà. Bon, donc j'ai quitté l'école en cinquième et je suis parti vivre ma vie, donc, et je suis parti assez loin de chez mes parents. À l'époque, j'avais 14 ans, donc presque 15. Et donc j'ai demandé à être émancipé, qui paradoxalement mon père a accepté, parce que lui il était parti de chez lui à 18 ans alors que la majorité était à 19 et la majorité à l'époque était à 21. Donc il a très bien compris le truc, donc là-dessus pas de problème. Voilà, donc du coup je me suis retrouvé en Alsace, à bosser en carrière, et puis je peux dire un petit village, à Strux, donc très loin, perdu au fin fond de la campagne des Vosges, et puis bah, je prenais le bus du coup tous les week-ends. Et je prenais une chambre d'hôtel, et puis j'arrivais à débarquer le vendredi soir, et j'attaquais avec la séance de 22h, et puis le samedi et le dimanche, le samedi je faisais 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, et le dimanche, 14h, 16h, 18h, parce que 20h il y avait le bus, donc voilà. Donc voilà, je voyais le maximum de films que je pouvais voir, mais en allant tout voir, tout et n'importe quoi, hein. Donc là j'ai vu autant des films de kung-fu que des premiers Godard, que Easy Rider, voilà, des choses très... Et puis évidemment, les succès de l'époque, dont, notamment Le Val, par exemple, de Torrescola. Et c'est un... J'ai eu la chance aussi de tomber sur un passeur, voilà, notamment à Strasbourg, dans un petit cinéma qui s'appelait Le Club, qui n'existe plus peut-être maintenant, voilà, qui était tenu par un monsieur qui s'appelait Monsieur Tiefenbach. Et qui était de la vieille école, un petit peu comme René Clair, le créateur de l'ABC à Toulouse, c'est-à-dire qu'il ne laissait pas les films à l'abandon. Chaque film qu'il programmait, il le présentait avant chaque séance. Voilà, donc il resituait le film dans son contexte et tout. Et là, ça m'a conforté dans l'idée que le cinéma, ça, c'était pas seulement des films à voir, c'était aussi une histoire à raconter derrière ou devant. Bon. Et surtout, ce monsieur Tiefenbach a vraiment été un passeur, on peut le dire, mais surtout, il nous a décomplexé en tant que spectateur par rapport à certains films dits hermétiques. Voilà, notamment par rapport à Godard, qui toujours passe pour le cinéma inaccessible. Et il a eu cette phrase magnifique, où il nous a dit, Godard, c'est pas compliqué, il suffit de se laisser aller. Voilà, parce que Godard, c'est, bon, il faut des clés. On les a ou on les a pas. Si on n'a pas les clés, c'est pas la peine d'essayer de rentrer, vous rentrerez pas. Par contre, Godard, faut se laisser aller, parce que c'est pas seulement quelque chose à comprendre, c'est aussi quelque chose de beau à regarder. Voilà. Et donc, effectivement, même maintenant encore, hein, je me surprends, quand j'entends un avion dans le ciel, je lève les yeux au ciel, et puis voilà, je repense au ciel de Passion, et je me dis, c'est pas aussi beau que le ciel de Godard. Bon, voilà, quoi. Bon. Voilà, et donc mon rapport au cinéma était un peu ça au départ, et puis donc dans cette liberté, je suis allé comme un forcené, plus un rapport de cinéphage que de cinéphile. Et puis après, quelques années plus tard, quand je suis revenu, que j'ai revu Les Copains, j'avais vu 10 fois plus de films qu'eux, quoi. Voilà, quoi.
Alors, quel film tu as choisi pour cet exercice de film de chevet ?
Alors, c'est un film qui me tient profondément à cœur, parce que, justement, j'avais rien compris, mais je m'étais laissé aller sur les conseils de Monsieur Tiefenbach. Et c'est... après, je l'ai revu, hein, mais ma première impression, c'était un objet vraiment filmique incroyable, une musique incroyable, des images incroyables, une atmosphère angoissante mais en même temps fascinante. Voilà, et c'est Eraserhead, donc le premier long métrage de David Lynch. J'avais vu ça à l'Escurial Panorama, que je fréquentais à l'époque assez souvent. Là c'était plutôt un programme de midi, d'ailleurs, je me souviens, une séance de midi. Je faisais des séances de midi, et il y avait les nuits, voilà, parce que je fréquentais surtout l'Escurial pour ces nuits fantastiques, où il faisait des nuits par 3 réalisateurs, 3 Carpenter, 3 Argento, 3 Toby Hooper, voilà. Mais là, pour David Lynch, c'était un film à part, donc il avait droit à une séance à part, et c'était midi. Et le film sortait d'Avoriaz, où il avait eu le prix, le Grand Prix, je crois, hein, voilà. Et c'est vrai que, ça ressemblait à rien de ce qu'on avait pu voir jusqu'ici, quoi. C'était vraiment un film autre.
You and Mary have sexual intercourse.
Bon, j'ai découvert bien plus tard, quand j'ai revu le film, que c'était un film qui traitait de l'angoisse de la paternité, ce qui m'était totalement passé au-dessus la première fois. Mais c'est surtout l'idée de chez Lynch, toujours, c'est cette idée de d'étrangeté. Je dirais pas de fantastique. Justement, pour moi, Lynch n'est pas un réalisateur fantastique, c'est plutôt un spécialiste de l'étrange, ou comment rendre le quotidien extraordinaire. Il y a quelque chose de ça, quoi. Avec des images ordinaires, en apparence, quoi. Et Rosehead est un peu le summum du genre. C'est-à-dire, c'est le rêve américain qui tourne au cauchemar, quoi. On sait très bien que dans le cinéma américain, la famille est quelque chose de fondamental. Bon. Et dans Eraserhead, la famille est assez terrifiante, je dois dire. On n'a pas envie trop d'y rentrer, quoi. Voilà. Et ça, c'est un des aspects. Il y a un autre aspect aussi important, c'est que on est dans le noir et blanc très granuleux. Bon, le film a été tourné en 16. Et même si après il a été kinoscopé en 35, mais à la base quand même c'est de l'image 16, c'est clair, c'est très granuleux, un noir et blanc très rugueux comme ça. Et en plus, comme ça se passe dans une friche industrielle un peu abandonnée, ça en rajoute une couche. Et donc en plus de cet aspect étrange, il y a un côté glauque qui est très présent dans le film. C'est un film poisseux, quoi. Où on n'a pas trop envie d'aller dans les recoins. Il fait trop sombre. Voilà. Et en plus, bon, la musique en rajoute une couche qui est vraiment formidable. Parce que c'est pas vraiment une musique de film, elle est à l'image du cinéma du Lynch, c'est-à-dire on est presque proche du bruitage industriel. En fait, on est à mi-chemin entre le bruitage industriel vraiment, le son d'usine, et puis la musique, mais vraiment comme l'a pratiqué les Allemands dans les années 80, quoi. Bon. Voilà, c'est-à-dire quelque chose d'un peu raide à écouter, quoi. Séparément. Bon. Mais après, bon, c'est vrai que c'est un film, moi, que je revois avec plaisir pour plusieurs scènes, parce qu'il y a tout Lynch dans ce film, en fait, tout simplement, quoi. C'est surtout pour ça, quoi. C'est un film qui est un film d'expérimentation, vraiment. C'est-à-dire, c'est pour ça que le film ressemblait à rien d'autre à l'époque, et ressemble toujours à rien d'autre, hein, à ce jour, à ma connaissance. Hein. J'ai jamais vu un film aussi fort et aussi différent. C'est un film en fait qu'il faut appréhender, à mon sens, hein, faut pas chercher à comprendre, justement, c'est un peu comme pour Godard, faut vraiment se laisser aller, puis éventuellement si on peut arriver à choper quelques brides pour construire l'histoire, bon après on en a eu une histoire quand même, hein, mais c'est un film qui fonctionne beaucoup sur le symbolique et sur la répulsion aussi. Notamment, je pense justement à la scène du déjeuner dans la famille, donc ou la scène avec les spermatozoïdes géants qu'il expose contre le mur. Enfin, tout est fait pour révulser quand même. Hein. C'est pas pour faire joli. Voilà, c'est clair. Lynch a un rapport quand même assez conflictuel avec la beauté. Voilà, d'ailleurs, quand vous regardez la tronche des acteurs qu'il choisit, on est très loin des canons hollywoodiens. Pour un réalisateur américain, hein, je veux dire, et lui est vraiment américain, c'est pas un exilé voilà, comme Cameron ou ou Renny Harlin. Il est vraiment américain, pur souche. Voilà. C'est aussi ça le cinéma de Lynch, c'est que en même temps c'est des films par certains côtés très américains. Le culte de la voiture, voilà, le côté banlieue. Bon. Il y a quand même des éléments typiquement américains, mais qui sont un peu transvestis, un peu voilà, c'est l'horreur Lynch, c'est vraiment l'horreur dans le rêve américain. Quand on voit Velvet par exemple, c'est l'exemple type, quoi, c'est-à-dire l'oreille coupée retrouvée dans la pelouse. On peut pas faire plus américain que la pelouse tendue fraîchement devant la maison, quoi. Voilà, c'est ça qui me passionne chez Lynch, c'est sa façon dont il... Moi j'aime bien les réalisateurs comme ça, c'est-à-dire les gens qui prennent quelque chose qui apparemment est assez formaté et qui dévoile le truc, quoi, voilà. Et je voudrais rappeler, pour mémoire quand même, que Eraserhead, justement, c'est le dernier film occulte, authentique, c'est-à-dire que c'est le dernier Midnight Movie. Alors on rappelle, peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Midnight Movie, les Midnight Movie, bah, le premier c'est El Topo de Jodorowsky, et après bah, y a eu donc La Nuit des Morts Vivants de Romero, le The Ardor Veicom de Perry Anzell avec Jimmy Cliff, un film jamaïcain, Pink Flamingos de John Waters, The Rocker Picture Show, et puis le dernier, donc ça a été Eraserhead de David Lynch, qui n'a pas du tout fonctionné au départ, même dans le cadre des Midnight Movie, mais la personne qui gérait les Midnight Movie, donc, était un directeur de salle new-yorkais, qui prenait des films, donc, qui n'étaient pas acceptés dans le circuit traditionnel, donc qui n'étaient pas distribués officiellement, passait ces films-là à minuit dans sa salle, donc hors projection d'exploitation normale, et ça fait sale comble, quoi, voilà. Et c'est des films, maintenant, qui, quand on regarde, sont tous devenus, sans exception, des petits classiques, certains des grands classiques, hein, je pense à El Topo, La Nuit des Morts Vivants, voilà, ou The Rocker Picture Show, qui est peut-être le film le plus vu, puisque même encore, tous les jours, en fait, il y a une projection de Rocker Picture Show quelque part dans le monde. Voilà, tous les jours. Au moins une. Donc... Et donc Lynch fait partie de cette dernière lignée, quoi, de cinéastes qui n'étaient pas admis, je dirais entre guillemets, voilà, dans le monde du cinéma.
Voilà, donc Thierry qui venait nous parler d'Eraserhead, ça vous raconte quelque chose, Eraserhead ? C'est des souvenirs.
Comme quoi, les Américains.
Hein, ouais, ça peut être une bonne conclusion. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour ce qu'on peut retrouver à l'American Cosmographe à la rentrée, par exemple, ou
On l'a fait un petit peu, mais à la rentrée. Oui, à la rentrée, il va y avoir plein de bonnes choses. Déjà, on va ouvrir avec le Festival Groland, qui est toujours un moment un peu particulier de l'année. C'était le cas avec Utopia, ça sera le cas cette année aussi. Et il y a, comme d'hab, une grosse programmation, donc chez nous, mais ailleurs aussi. Et puis là, il y a un peu les films cannois qui vont arriver. Donc oui, ça va être une belle rentrée. Dès le 24 août, il y a le nouveau Guiraudy. Ouais.
Rester vertical. Ouais.
Tout à fait. Et voilà, après, ça va s'enchaîner. Ça.
Ouais. Cinespagna aussi.
Oui. Cinespagna aussi. On a moins avancé sur la programmation encore, mais oui, on y sera.
Il y a un film espagnol à découvrir là chez vous que j'ai pas eu l'occasion de voir. Carmina.
Carmina.
Ouais. Ça m'a donné envie. Ça a l'air assez détonnant.
C'est tout à fait ça. Détonnant. C'est un film assez inclassable, mais très. Enfin, c'est tout tient sur le personnage de Carmina. Mais qui est assez étrange et assez à la fois touchante et effrayante. Ouais. Enfin, elle est un peu dans différentes émotions comme ça tout le temps. Et il y a des moments très drôles. C'est assez décalé. C'est un film décalé.
Ouais. Ça serait avec notre film québécois là. Voilà, ouais. On est un peu dans le décalage. Ouais. On va rappeler les infos pratiques, quoi, vous trouver, pour venir.
Et surtout, il y a quelque chose de très important. C'est que depuis le 20 juillet, donc depuis mercredi, en fait, la Gazette Utopia n'annonce plus que les horaires de Tournefeuille. Et pour avoir notre programme à nous, il faut prendre le petit fanzine, le petit format de programme de l'American Cosmographe, et idem pour le site internet. Si vous allez sur le site internet d'Utopia et que vous regardez les horaires, ça va vous emmener à Tournefeuille. Il y a Google aussi qui nous fait un peu des siennes. Quand on tape Utopia Toulouse, ça donne les horaires de Tournefeuille et ça dit que c'est chez nous. Donc, American Cosmographe, American Cosmographe, American Cosmographe. Voilà.
Programme, site internet et page Facebook pour avoir les horaires de films. Oui.
Voilà.
Voilà. Donc c'est vrai, comme ça a commencé mercredi et qu'on s'était pas rendu compte que peut-être ça pourrait un peu perturber les habitudes.
Il faut faire attention.
Il faut insister.
Ouais, ouais. Mais merci beaucoup. Eh bien, bonne continuation. Bel été. Au frais dans une salle de cinéma, mais peut-être aussi en vacances. Vous en prenez un peu?
Pas cette année.
Quelle surprise. Peut-être en hiver, alors.
Peut-être. On verra.
Ou peut-être l'été prochain. Hein, voilà.
Il y a peut-être une période creuse entre la fin janvier et la mi-février. Ça arrive, non? Ça arrive pas?
Non. Non,
bon, on n'espère pas, à vrai dire, on n'espère pas.
Ouais. Okay. Bon, alors, on vous souhaite plein de travail. Merci.
Merci
et donc, je
Merci.
Rappelle, c'est donc Jérémy et Annie, les nouveaux directeurs de l'American Cosmograph. Et Cinématoque se termine. Je lance le générique. Et pas d'émission la semaine prochaine pour cause de vacances. On se retrouve dans 15 jours avec un hommage, une émission spéciale consacrée à Bernadette Lafont.